Ça vous prend à n'importe quel moment ce petit quelque chose à se reprocher. Tout va bien, mais ça traîne, c'est là. Ça surgit, c'est une présence. La mauvaise conscience. Les élections aux États-Unis, par exemple, je sais que beaucoup s'en inquiètent et tournent ça dans leur tête. Bah, moi, j'ai un petit peu fait semblant, mais j'ai quand même très très bien dormi. Léger sentiment de culpabilité. Et puis, quand je me suis réveillé, ça m'a encore frappé de plein fouet. La chance, cette fois, de travailler. Et puis, la chance d'avoir la parole. La chance d'être écouté. La chance de vivre dans un appartement, d'être en sécurité. La chance d'être passé pour l'instant à côté de la maladie, la chance d'être privilégié, celle de vivre à deux, quand beaucoup en sont privés, ça crée un drôle de sentiment et ça peut venir à tout moment, cette idée aussi que par je ne sais quel hasard de la vie, eh ben on est passé à côté de ce pourquoi on était fait, l'enseignement de mon côté, l'enseignement que j'ai lâché, cette idée qu'on est en train de transgresser ce qu'on vous a inculqué, le modèle social, politique, moral, le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant, de vivre différemment, comme disent mes parents, et se dire qu'en même temps ici, c'est plutôt facile quand d'autres, pour la même chose, risquent leur vie. Du coup, j'avoue, j'ai mauvaise conscience d'avoir bien dormi. Qui a l'esprit tranquille ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il mauvaise conscience ? Il y a 6 ans, il inaugurait l'Arabe du futur, cette série autobiographique de romans graphiques dont le premier volume lui valait son 2e Fauve d'or à Angoulême. Le 5e tome de cette saga entre la Syrie et la Bretagne sort aujourd'hui. C'est le livre du jour, une adolescence sur fond de tragédie familiale dans la France du début des années 90. Aussi bouleversant, je crois, que décapant. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'ai l'impression qu'on est vraiment des politiques. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Ségolène Royal. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous donne mauvaise conscience, vous ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que peut-être j'ai un petit peu moins mauvaise conscience qu'il y a quelques années. Tout me donnait mauvaise conscience.
Ah, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Alors, comme vous le disiez, c'est vrai que déjà le fait d'habiter dans un pays aussi extraordinaire que la France, on peut faire des livres comme on veut les faire, comme on... Alors, il y a à la fois la mauvaise conscience d'avoir une chance comme ça qu'on n'a pas choisi. Enfin, c'est un hasard d'être là. Et ensuite, moi, je trouve que ça donne une responsabilité de se dire qu'il faut essayer de profiter de cette chance et essayer d'utiliser cette liberté d'expression, le pouvoir de faire des livres. Donc, c'est de la mauvaise conscience. Au bout d'un moment, j'essaie de la retourner.
Et quand vous étiez ado ?
J'avais mauvaise conscience de tout, oui, c'est vrai. J'avais mauvais. Alors moi, je venais d'un petit village en Syrie, le village de mon père, où les gens étaient. C'était une société extrêmement prude, où il n'y avait aucun rapport sentimental entre les enfants, entre les ados. Voilà. Et d'un seul coup, quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé à Rennes dans des fêtes, des booms, etc., où les ados s'embrassaient.
La décadence.
Où il y avait une vie sentimentale. Donc forcément, ça crée un choc. Donc la mauvaise conscience, bien sûr, arrive à ce moment-là. On a un conflit de loyauté avec sa propre éducation.
Alors dans le 5e tome de l'Arabe du futur, on voit l'adolescent que vous étiez sans arrêt tourmenté, en effet, par le regard de ses cousins syriens, pétri de religion sur son mode de vie, sur ses désirs, sur ses choix. La religion, quelle qu'elle soit, ça représente quoi pour vous, Riyad Satouf ?
Alors, moi, personnellement, je suis totalement athée. J'ai toujours été fasciné par le paranormal, l'occulte, etc., en essayant de trouver une preuve qu'il y avait autre chose que notre monde réel. Mais il est vrai quand même que c'est impossible de ne pas constater un génie des religions. Ça, c'est parce que les religions étaient essentielles pour unir des gens à une époque où il n'y avait aucune éducation. Et donc, chaque religion est géniale. Maintenant, est-ce que... aujourd'hui, ça a un sens pour moi. Moi, je pense qu'il faudrait réussir à créer une nouvelle spiritualité.
Vous allez loin. Hein. Je compris que les mythes fondateurs des religions avaient comme point commun la haine de la liberté sexuelle et la domination de l'homme sur la femme. C'est ce que vous écrivez, Riyad, page 139. Quand est-ce que vous l'avez compris, ça ?
Disons que quand on voyage beaucoup et quand on s'intéresse à toutes les différentes cultures humaines, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir que chaque système spirituel, où qu'il soit sur Terre, a pour but... De faire en sorte que les êtres humains vivent ensemble en société et s'éloignent du chacun pour soi, de la violence, de la brutalité. Donc pour unir les gens, il faut les unir en société. C'est sûr que il faut favoriser les familles. Disons, et la liberté, moi, à travers le personnage du diable, par exemple, que j'aborde dans ce livre.
Mais qui vous fascine.
Qui est un personnage totalement fascinant. Et je me rappelle, j'en parlais avec Alain Rey, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et lui-même avait fait un dictionnaire extraordinaire qui s'appelait le dictionnaire amoureux du diable. Et ses mots préférés de la langue française étaient Lucifer, et j'en parle aussi dans ce livre, Lucifer qui est le symbole du mal et qui pourtant signifie le porteur de lumière. Et c'est vrai que le savoir, l'éducation, c'est aussi quelque chose de très dangereux pour la nuit du confort. Je ne sais pas comment on peut se sentir très bien dans une forme d'ignorance.
Qu'est-ce qu'il y a de plus diabolique en vous, Riyad Sadou?
Non, il n'y a rien de diabolique. Non,
bah
non,
si, le savoir, par exemple.
Bah si, j'ai pas de... comment dire, quand j'étais enfant, j'ai compris certaines choses par ma propre expérience et par la confrontation justement des différents modes de vie. J'ai continué de le comprendre quand on voyage. C'est vrai que souvent, je me suis rendu compte que la plupart des gens voyagent assez peu, en fait. Même quand on a la chance d'habiter dans un pays riche comme la France, on va partir en vacances dans tel ou tel pays, etc. Mais aller habiter dans une autre culture pendant longtemps, faire l'expérience de ce que c'est qu'une autre vie, d'autres valeurs morales, etc., ça ouvre tout de suite les portes.
Ce qui est intéressant dans votre album, c'est aussi la façon dont la religion nous imprègne, même si on peut possiblement la rejeter. Il en est beaucoup question dans ce livre. La religion qui engendre aujourd'hui, comme vous le savez, de plus en plus de crispations. Quand vous décidez d'aborder un sujet comme Dieu, les croyants, l'islam, le catholicisme, quelles questions est-ce que vous vous posez?
J'essaie de suivre vraiment les choses telles que je les avais vécues. Moi, j'ai eu un gros problème avec les croyances, c'est que très tôt, j'ai été j'ai jamais eu la foi, en fait. J'ai jamais eu il y a toujours un moment où les enfants pensent qu'il y a un créateur ou etc. J'ai tourné autour de ça en me disant ça va peut-être me tomber dessus à un moment, je vais peut-être me rendre compte que d'un coup Dieu va venir me chercher, alors quelle forme aurait-il, je ne sais pas, mais et en fait ça n'est jamais arrivé.
Mais sur ces sujets vous écrivez encore en toute liberté, Riyad?
Oui, mon temps est celui du livre. Mes livres, voilà, quand j'achète un livre en édition originale des années 30 ou des années 40, l'auteur n'est plus là, mais le livre est toujours là. Donc c'est des choses qui traversent le temps. Donc je peux pas me dire que je vais pas parler des choses telles que je les ai vécues.
À quoi vous avez l'impression d'assister pour autant en ce moment, depuis l'assassinat de Samuel Paty, toutes les répliques de cet attentat, les réflexions aussi qui ont été créées autour du dessin, autour de la caricature?
Ce dont je parle aussi dans ce volume de l'Arabe du futur, c'est l'importance des profs et ceux qui ont, cette importance, c'est ce qu'elle a pu représenter dans ma vie. Alors moi, ayant grandi dans un petit village en Syrie, dans une petite école, on apprenait très bien à lire, on apprenait très bien à compter. J'ai des cousins qui sont devenus des grands scientifiques, etc. Mais sauf que les enfants étaient dressés, on nous tapait dessus avec des bâtons, on n'était pas formés à la liberté de penser. La chose qui se passe en France, moi j'ai eu beaucoup de professeurs, même les moins bons, essayaient d'élever leurs élèves, de leur faire voir quelque chose d'autre de la classe sociale où ils étaient. Et c'est vrai que j'étais extrêmement choqué par l'assassinat de Samuel Paty, parce que c'est le symbole même de ce qui fait la spécificité de la France, où on peut très bien penser et être convaincu de quelque chose, mais d'avoir l'exemple une fois dans sa vie d'un prof qui essaie de vous faire voir les choses autrement, de savoir que cette façon de voir autrement existe, c'est fondamental.
Avant-hier, à ce micro, je recevais l'auteur de BD Art Spiegelman et on parlait justement de ces formes de résistance, résister à la violence, à l'ignorance, à l'obscurantisme, ça passe par quoi ?
Faire des livres et profiter des libertés qui sont les nôtres tant qu'on les a.
C'est-à-dire par le dessin et par l'humour aussi chez vous?
L'humour, le dessin, et puis c'est vrai que quand on voit tous les livres qui sont écrits chaque année, c'est aussi c'est plus fort en fait que l'obscurantisme, parce que finalement je sais pas comment le définir, mais la créativité, l'expression artistique, moi je sais que l'émancipation par l'art a été quelque chose de fondamental pour moi. Quand je me posais des questions sur mon identité originale, suis-je plutôt d'origine syrienne, suis-je plutôt un breton, suis-je plutôt du côté de mon père qui pense que toutes les femmes sont le diable, ou plutôt de mon grand-père breton qui est naturiste et pense que toutes les femmes sont extraordinaires, qu'il faut les séduire. Je me suis choisi, moi, l'identité d'écrivain et l'émancipation par l'expression artistique.
Et que permet le rire?
Alors le rire, c'est vrai que tout le monde ne rit pas des mêmes choses. Moi, j'avais été extrêmement choqué et marqué quand j'étais enfant par le début du film de Charles Chaplin, The Kid, où on voit Charles Chaplin en haillon sortir dans la rue et se prendre des tombereaux de détritus sur la tête. Et à un moment, il tombe sur un petit enfant abandonné dans la rue et qui pleure. et il le récupère, et il essaie de... Il est un peu ému par lui, mais il essaie de le laisser tomber dans un autre berceau. Et la femme n'en veut pas, elle lui rend, et il essaie de l'abandonner, mais là, il y a un policier qui vient, qui le surveille, qui croit que c'est le sien, et il se retrouve bloqué avec cet enfant. La scène racontée dans ce film, c'est l'horreur absolue. Ouais. Tout ce que ça raconte est horrible. La crise sociale, l'abandon d'un petit enfant, enfin, c'est d'une tristesse sans fond. Et en fait, c'est hilarant à regarder, du début jusqu'à la fin, parce que c'est fait de telle façon que ce soit hilarant, le tragique devient comique. Et je crois que ça m'avait vraiment marqué, et c'est quelque chose à laquelle je pense souvent. Je me dis, c'est pas parce que c'est triste que ça peut pas être drôle.
Vous savez qu'il y en a une qui ne fait pas du tout rire dans cette émission Riyad. Peut-être que vous la connaissez, c'est La Culture. Elles sont une actualité très étrange en ce moment. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 5 novembre?
America, what is America's destiny?
Nous sommes en mesure de vous l'affirmer. Kanye Omari West ne sera pas le 46e président des États-Unis. Son programme ni étiquette candidat de Dieu, selon ses propres termes. Le rappeur de 43 ans n'aura recueilli que 60 000 votes, soit 0,4% des suffrages. Mais pas refroidi par l'expérience, il a quand même annoncé qu'il serait à nouveau candidat en 2024. L'important, c'est de participer.
J'enlève 5 points à Gryffondor. Je veux, sur mon bureau, lundi matin, 2 rouleaux de parchemin sur le loup-garou. Et vous insisterez en particulier sur la façon
Monsieur,
de les reconnaître.
Monsieur, on a un match de Quidditch demain.
Fin de l'aventure pour Claude Giraud, le comédien français complice de Louis de Funès dans les aventures de Rabbi Jacob. C'était un lundi, il avait 84 ans, pensionnaire de la comédie française pendant 20 ans, acteur de Vadim, Houri, Brissot. Il restera aussi comme l'une des légendes du doublage français. Il prêtait régulièrement sa voix à Robert Redford, Harrison Ford, Sean Connery ou plus récemment Alan Rickman, inoubliable Rogue dans Harry Potter.
C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité.
À votre bon cœur, les lecteurs, la BNF, Bibliothèque Nationale de France, a lancé mardi un vaste appel aux dons afin d'acquérir un exemplaire particulièrement précieux et rare de Du côté de chez Swann. L'ouvrage de Marcel Proust, édition originale du roman daté de 1913, contient une longue lettre dédicace de plus de 8 pages dans laquelle l'auteur détaille à la plume le canevas et l'organisation de sa recherche du temps perdu. Un trésor qui coûte la bagatelle de 350 000 euros et qu'on sera ravis de voir exposé en public plutôt qu'en privé.
Déjà, pourquoi pas jouer à loup glacé? Parce qu'il faut se toucher pour loup glacé.
Nos problémos, Margot, car aujourd'hui, jeudi confit, on se prescrit un grand bol d'air et de culture entièrement virtuel. Et ça, grâce au site Muséosphère qui nous entraîne à la découverte de 13 musées parisiens. À travers des balades en ligne, des visites numériques, on se plonge dans les collections du musée Carnavalet, de la maison de Victor Hugo, du musée d'art moderne de Paris notamment. Allez Margot, un petit clic en avant. Riyad Satouf, invité de Boomerang ce matin pour le tome 5 de l'Arabe du futur, dans lequel vous poursuivez l'exploration de votre histoire familiale. On vous retrouve adolescent, je le disais, l'adolescence que vous ne cessez d'explorer. Je me marre parce que je pense à tous vos livres, depuis La vie secrète des jeunes, Retour au collège, Les beaux gosses, Les cahiers d'Esther. Quelle période est-ce que ça représentait en fait pour vous, si vous faites le bilan de votre adolescence, Riyad?
Bah, je crois que quand j'étais adolescent, j'ai été marqué déjà par ce drame familial qui avait touché ma famille. Enfin, ma famille. Mais aussi, il est vrai que
l'adolescence. Dont on ne dira rien.
Non, mais c'est pas. Ouais. Mais c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment finalement assez court où on est vraiment un mutant. On est des mutants. Et on des sortes de créatures entre deux mondes, entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est pas étonnant que c'est à cet âge-là qu'on aime les histoires surnaturelles, les histoires fantastiques. Moi, je me rappelle, j'avais été complètement traumatisé par ma lecture de Lovecraft, cet écrivain américain qui parlait de monstres qui attendaient, qui se transformaient dans l'ombre. Et c'est toute cette mutation des individus.
C'est intéressant.
C'est quelque chose qui vous poursuit toute
Donc,
la
non,
vie.
Non seulement en fait pour échapper au réel, mais aussi pour se conformer à ce qu'on est véritablement, c'est-à-dire un monstre.
Ben, quand on est adolescent, on est un petit peu monstrueux. Moi, je me rappelle, je changeais de tête tous les 15 jours.
Ouais.
Un coup on est bossu, un coup on est tout droit, un coup on a des grands pieds, un coup.
La texture du visage change aussi, voilà. Évidemment, on n'a pas effectivement les mêmes bosses. Ouais. Au collège, ça m'a un peu fait penser à ce que vous racontez dans les cahiers d'Esther. Il y a une hiérarchie qui est assez implacable entre les élèves. Il y a les très beaux, populaires et dominants, les moyennement beaux et les moches qui ne sortent avec personne et qui ne se regardent même pas entre eux. À quelle catégorie est-ce que vous apparteniez, vous? J'ai l'impression que je sais la réponse.
Non, mais alors, c'est vrai que j'ai observé ça, mais il est toujours possible de passer d'une catégorie à l'autre et aussi de perdre.
Oui.
son passeport, sa carte de chaque catégorie. Moi, je me rappelle que je arrivais à m'en sortir avec les dominants qui étaient souvent sympas, en fait, grâce à mon super pouvoir du dessin.
Mais c'est ça, je le savais.
Voilà, je leur faisais des dessins, j'étais extrêmement, donc finalement, bien sûr, alors, j'aurais tendance à dire que j'étais chez les ultra moches, mais, finalement, je m'en sortais pas si mal que ça.
Mais qu'est-ce que vous leur dessiniez aux dominants? Rien de cette.
Ouais, je me rappelle, il y avait un type qui m'avait demandé qui a de moi. Alors l'homme le plus célèbre à notre époque, Augustin, vous vous rappelez, c'était Michael Jordan, qui était le plus grand sportif de tous les temps.
Dans tous les sens du terme.
Et donc je l'ai tellement dessiné en extension, en train de sauter, en train de mettre des paniers, pour offrir des dessins à tout le monde. Disait, wow,
alors qu'en fait, vous aimiez pas le basket, mais le ping-pong.
Non, j'adorais le basket aussi. Ah hein, j'aurais adoré être Michael Jordan, mais je me rappelle que voilà, je sais le dessiner parfaitement. Si vous voulez, je vous en fais un après.
Ça me ferait plaisir, si vous pouviez en faire un pour les auditeurs. À quoi ressemblait votre trait à l'époque?
Alors c'est drôle parce que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des dessins de cette époque-là et j'ai été à la fois frappé et un peu dégoûté de voir que mon style avait finalement assez peu évolué depuis le collège. J'ai encore certains types de dessins qui sont les mêmes, notamment dans le dessin des mains. Et je me dis finalement peut-être que j'aurais pu commencer à être auteur de BD dès cette époque-là.
Cela dit, c'est pas étonnant parce que ces années que vous décrivez, elles coïncident aussi avec la découverte d'auteurs de BD comme Moebius, Bilal, Druyer. En quoi leurs albums ont-ils non seulement changé votre dessin, mais aussi votre approche de la bande dessinée, Riyad?
Alors, ayant habité en Syrie, dans ce petit village, je ne lisais que Tintin, que ma grand-mère m'envoyait par la poste. Donc j'étais vraiment dans ce petit village confiné. Donc pour moi, le livre a été un bien essentiel, on peut dire. Parce que c'est grâce à Tintin que je me suis mis à faire des livres. Et je ne lisais que ça. Et arrivé en France, j'ai découvert la bande de métal hurlant, Druyer, donc Moebius, Bilal. Et cette liberté incroyable de faire confiance à son inconscient et à ses idées inconscientes et de les mettre dans les histoires, c'est eux qui me l'ont apporté, vraiment.
Il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la bande dessinée, c'était quelque chose d'absolument méprisé. Et il a fallu 40 ans, 40 ans de combat, pour qu'on soit aujourd'hui dans les musées, dans les salles des ventes, chez les grands collectionneurs et partout. Et dans les galeries. Et je le rabâcherai jusqu'à la fin de ma vie. Dans les années 60, c'était un art pour les débiles. Moi, à l'époque, je m'en rappelle très très bien, j'étais dans le métro, je lisais Pilote et je lisais Harakiri, et les gens se foutaient de ma gueule.
Philippe Druyer, il y a 6 ans au micro de Patrick Simonin qui parle d'un combat, en fait, Riyad Satouf. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
J'adore. Alors, la voix de Druyer immédiatement fait baisser mon rythme cardiaque. C'est parfait. Il me calme tout de suite. C'est un des grands génies de la bande dessinée. C'est l'inventeur de la bande dessinée moderne et c'est le premier auteur de BD qui a supprimé les bords de cases. Il a fait des pages exploser dans tous les sens.
Qui en a fait un art, en ce sens?
Un art, c'est un créateur qui a une influence majeure sur toute la... Et c'est un des premiers auteurs de BD qui avait accepté de me rencontrer. Il avait regardé mes dessins quand j'étais ado, m'avait encouragé, etc. Et tout ce qu'il dit est vrai. Et c'est vrai que la bande dessinée, aujourd'hui, a acquis un statut un peu respectable. C'est-à-dire maintenant, il y a des gens qui ne lisent pas de bande dessinée qui acceptent de lire des BD comme si c'était à l'égal du roman. C'est un livre, voilà, et c'est grâce au travail de toute cette génération aussi.
Et c'est quelque chose dont vous parlez souvent. C'est ce que vous vouliez faire avec l'Arabe du futur également, faire une BD qui plaise à ceux qui d'habitude n'en lisent pas. Comment vous avez fait concrètement?
Je me suis imaginé que ma première lectrice était ma grand-mère bretonne.
Ah ben là, effectivement.
Voilà, ouais. Elle n'aimait pas la BD, exactement dans ce que disait Druyer.
Et pourquoi pas le grand-père nature? Il saurait changer sensiblement.
Alors lui aussi, bon, c'est vrai, mais ma grand-mère était peut-être plus sensible à la lecture, etc. Et alors elle aimait rire, donc je me disais comment je vais faire pour la faire rire. Donc l'idée a été de faire une bande dessinée facile à lire, mais très longue, enfin assez longue à lire, avec des expressions fortes, des personnages, des contraintes de couleurs pour qu'on comprenne bien où on est. Et c'est vrai que j'ai été étonné parce que ça a fonctionné. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui sont très heureux de venir me dire qu'ils ne lisent pas de bande dessinée, mais qu'ils ont commencé avec l'Arabe du futur.
Et une histoire aussi, parce que moi ce qui me frappe quand je vous lis, c'est quand même le travail sur la narration, sur l'histoire, précisément. Vous qui, pourtant, à un moment donné de votre carrière, étiez plutôt versé dans l'illustration. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez aussi un raconteur d'histoire?
Bon, je crois que ça a été à partir du moment où j'ai fait entrer le réel et l'observation du réel dans mes histoires. C'est vrai que la construction d'un récit artificiel, entre guillemets, c'est-à-dire en inventant tout, même moi en tant que lecteur, j'ai un problème. Je vois les techniques qui mènent à ça. Et faire entrer le réel, c'est aussi faire entrer une part organique dans son récit. Et on est soi-même surpris par ce qu'on fait entrer parfois. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé à observer les choses et à vouloir les retranscrire en bande dessinée que j'ai trouvé ce que j'avais envie de dire.
Alors ce serait quoi une bonne histoire? Quelque chose de vrai, en fin de compte?
Je crois qu'une bonne histoire, je ne vais pas faire le sketch des inconnus, mais une bonne histoire, je dirais que c'est 30% de maîtrise et 70% d'inconscient qu'on laisse entrer. Voilà. C'est ce que disait Stephen King, d'ailleurs.
Mais j'aime bien quand vous donnez des chiffres, parce que ça donne une dimension un peu scientifique à Boomerang. Pas toujours le cas, on va pas se le cacher, Riyad. On va continuer à s'en raconter ensemble des histoires juste après un titre qui va vous faire pousser les cheveux. On en a besoin tous les deux. Vous qui, adolescent, ambitionniez de devenir un Kurt Cobain siro-breton, on écoute Nirvana, Come As You Are, sur l'album Nevermind en 1991. Vous êtes sur France Inter avec Riyad Satouf. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Mais c'est lui qui mentionnait Tintin et Hergé tout à l'heure, et c'est vrai qu'on est moins du côté de Kurt Cobain que celui d'une version siro-bretonne de Tintin, justement. L'œil malin, le sourire détective, le cheveu mi-loup, il a toujours l'air sur le qui-vive, prêt à secourir la veuve et l'orphelin, à sauter d'un train en marche, à élucider les secrets d'une licorne, tout en chemise bleu marine, bleu nuit, surmontée par une petite veste noire fort bien coupée. Riyad Satouf, invité de Boomerang pour le 5e tome de l'Arabe du Futur, disponible en click and collect, en librairie, dès aujourd'hui, une série dans laquelle vous racontez, mine de rien, l'histoire d'une tragédie familiale. Cette histoire, à quel moment est-ce que vous avez ressenti le besoin de la raconter, sans vraiment la révéler? Parce que moi, je trouve que ça enlève quelque chose au livre.
C'est quelque chose qui a été présent assez tôt, mais j'étais sans doute pas prêt pour aborder l'histoire de front. Ça s'est déclenché, je pense, au début de la guerre civile en Syrie, quand j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore à Homs à venir en France. J'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations en France, parce que on croit que c'est facile d'entrer dans ce pays, mais c'est très très compliqué. Et j'ai eu, comme j'avais beaucoup de difficultés, j'ai eu envie de raconter les difficultés justement que je rencontrais. Et je me suis dit, pour que ce soit intéressant pour le lecteur en bande dessinée, faut que je raconte l'histoire depuis le début. Et c'est ce qui m'a lancé, libéré.
Et cette histoire, ce qui est intéressant, c'est quand vous la racontez à vos amis, ils vous croient pas.
Alors ils me croyaient, mais ils arrivaient pas à visualiser les choses. Et c'est vrai que, alors je dis souvent. Je suis athée, j'ai le paranormal, etc. J'ai jamais rien vu de paranormal. J'ai quand même vu un truc paranormal dans ma vie, je vais vous le dire. C'est, je n'arrive pas à m'en remettre complètement. C'est le fait que pendant 35 ans, l'histoire de l'Arabe du futur, je l'ai raconté à tout le monde, ça, personne ne visualisait quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a des millions de lecteurs qui connaissent mieux ma famille que moi avec la même histoire. Et la bande dessinée est une sorte de super pouvoir magique. Je me dis, il y a vraiment quelque chose de magique dans cette transformation des énergies. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Pour moi, c'est un vrai truc magique.
Alors, ce drame, il implique votre père, qui est comme un fantôme dans ce cinquième tome. Votre père, quel homme est-ce que c'était, Riyad Satouf?
C'était quelqu'un qui était issu d'un milieu très populaire, très très pauvre en Syrie. Il était le seul de sa famille à être allé à l'école. Et comme beaucoup de gens qui transcendent leur milieu, qui viennent de milieux très faibles et qui finissent par devenir, lui, il était devenu docteur en histoire, ils pensent souvent qu'ils ont un destin, ou qu'ils sont choisis par une force supérieure, parce que c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait. Ils vivaient près de la Terre et maintenant ils voyagent. Donc c'était quelqu'un qui avait un gros problème d'ego. Il rêvait de faire des coups d'État. Il se levait le matin en disant qu'il avait rêvé, qu'il avait déjeuné avec Staline, etc.
Et en même temps, vous aviez vraiment les moyens d'en faire le méchant de l'histoire, et on ressent énormément de tendresse quand vous en parlez, quand vous l'écrivez, quand vous le dessinez.
Alors moi, j'ai une grande aversion pour les histoires où on a tout compris dès la case 2. Alors, c'est vrai que la vie est quelque chose de très complexe. Décrire les rapports humains, c'est très complexe. Ce qui m'intéresse, c'est d'emmener mon lecteur dans des zones de malaise, par exemple. Lui faire ressentir une empathie pour quelqu'un de criminel, ou lui faire voir les choses sous un autre angle. Ça n'enlève rien à la moralité de l'histoire. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort et humain de montrer les faiblesses des personnages sombres aussi.
Pourtant, qu'est-ce qui vous a appris, ce père ?
Je dirais à vénérer peut-être l'éducation, en effet. Voilà, moi j'adore les profs, même les mauvais profs. Je me rappelle, j'avais un prof qui me détestait, que j'aimais pas du tout, qui m'a dit un conseil auquel je pense tous les jours. Il m'avait dit un jour, Satouf. Ah, il a des facilités, celui-là, Satouf, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les gars qui ont des facilités et qui foutent rien comme vous savez ce qui leur arrive un jour dans la vie? Ils se cassent la gueule. Et quand je fais des bandes dessinées, je pense tout le temps à ça. Et je revois sa voix et sa tête d'ancien militaire qui me dit, fais attention, tu fais une facilité avec tes petits bonhommes, là, et leur goutte de sueur. Fais un effort, sinon tu vas te casser la gueule. Oui. Voilà, j'aime beaucoup les profs.
Mais j'aime bien parce que vous avez toujours une manière extrêmement précise de faire entendre vos personnages. Et là, on l'entend. Reproduire en fait leur intonation, leur phrasé. C'est comme si vous les imitiez, vos personnages, Riyad Satouf.
Tout le temps, c'est comme ça que j'écris mes dialogues. C'est vrai que je peux pas faire autrement que de jouer les... Moi, j'ai une figure comique qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. C'est l'acteur Didier Bourdon, alors qui est un des acteurs des Inconnus, et qui avait une manière d'interpréter le réel qui m'a beaucoup influencé. Et souvent, à chaque fois que je dois dessiner un personnage, ou même dans les cahiers d'Esther, je joue la voix de cette jeune fille pour écrire le dialogue. J'arriverai pas à recréer le...
Bah là, vous me tendez une perche, Riyad.
Ah oui.
Parce que c'est un texte qui a quelque chose à voir avec Esther, que vous avez choisi de nous écrire ce matin. Et j'aimerais bien, si vous le voulez bien, que vous nous le lisiez.
Alors, en effet, j'ai demandé à la vraie Esther de un petit texte. Voilà, donc j'en ai fait un. Là, je vous le dis. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 15 ans, alors j'habite à Paris et là on est le matin, alors j'espère que vous avez bien dormi parce que moi ça a été, en fait je dors assez bien en général. Cette lettre elle commence vraiment de manière passionnante, vous trouvez pas, MDR? Alors je voulais dire bon courage à tout le monde pour ce confinement 2.0 qui nous casse bien les couilles, il faut bien l'avouer, c'est clair, désolé pour le gros mot mais on parle comme ça nous les jeunes. Alors comme il y a trop de malades graves et tout, je comprends qu'il faut faire des efforts pour eux, faut ralentir ce gros bâtard de virus, on va y arriver moi je crois. Bon alors, moi ça va, je vais au lycée toute la journée même s'il faut garder le masque, c'est mieux que pendant le premier confinement, je devais rester chez moi. J'en pouvais plus d'être dans ma chambre avec mon grand frère Antoine, la semi-racaille, qui regardait des vidéos du docteur Raoult toute la journée. Eh, mais sa voix, elle est gravée dans ma tête, quoi. Alors le virus, mon petit frère qui voulait que je lui reconstruise son tractopelle, mon père qui voulait savoir 20 fois par jour si je m'étais bien lavé les mains, et ma mère qui faisait du yoga avec sa prof à voix de fumeuse sur son ordinateur. Voilà, voilà, tu as ouvert les hanches, c'est bien. Je devenais folle à force. Bon, je voulais dire aussi que j'ai remarqué un truc, mais trop chelou. En fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut empêcher le coronavirus de progresser et tout. Mais moi, j'habite à Paris. Et en fait, dans les gares, les bus et dans le métro, mais tout le monde est les uns sur les autres, quoi. Il y a personne qui respecte la distance de sécurité et tout. C'est trop, trop chaud. Moi, je serais le coronavirus. Franchement, je kifferais trop d'être dans les transports. C'est là que j'irais. Ça serait trop la teuf pour moi. Du coup, je me demande si vous êtes bien sûr que ça sert à quelque chose d'empêcher les gens d'être à l'air libre dans la rue au-dessus, si les gens sont tous les uns sur les autres dans le métro en dessous. Hein? Bon, je sais pas. Voilà. Ah, au fait, et ma mamie, elle m'a dit de demander s'il y a des gens ici. En fait, est-ce qu'il y a prévu qu'il y ait plus de vaccins contre la grippe? Parce qu'apparemment, en France, il n'y en a pas assez. Et ma mamie, elle voudrait se vacciner et elle peut pas, donc comment on fait SVP? Voilà, bon allez je vous quitte, plein de gros bisous de loin, passez une bonne journée et protégez-vous du Covid en fait, oui je dis le Covid, même si je sais, faut dire la Covid et que c'est féminin, parce que genre ça veut dire la maladie à corona, mais en fait on dit bien le week-end alors qu'on devrait dire la week-end vu que c'est féminin aussi, hein? Alors pourquoi on dit pas la week-end? Genre c'est une maladie, c'est forcément une fille? Allez vas-y wesh.
Merci Esther, merci Riyad Satouf d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le 5e tome de l'Arabe du Futur sort aujourd'hui, que toute la série est publiée aux éditions Alary, disponible en click and collect, en attendant de meilleurs jours en librairie. Je précise aussi que le nouvel album de Reporters sans frontières, sans dessin pour la liberté de la presse qui vous est consacré sort également aujourd'hui. Tout de suite l'heure des médias, Sonia De Villers, juste après quelque chose pour Esther et pour moi et pour vous aussi, tiens on y va.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, tes mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, là c'est clair, il me fait tomber, je le vois. Français soit clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi on se sait, yeah. N'en fais pas trop s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter, yeah. Aime-moi doudou, aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie laisse tomber. Les rageux nous pistent, longue est la liste, pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles, maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, fête, fête. J'crois bien qu'on est en osmose, faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça, c'est quel comportement doudou? Tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou?
Doudou, Aya Nakamura sur France Inter, et tout de suite les médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Et Sacha Loupe.
Sacha Loupe.
Salut Augustin,
salut, à demain.